Jules Verne, Aventure de la famille Raton, conte de fées. Il y avait une fois une famille de rats, composée du père Raton, de la mère Ratonne, de leur fille Ratine et de son cousin Raté. Leur domestique, c'était le cuisinier Rata et la bonne Ratane. Or, il est arrivé à ces estimables rongeurs des aventures si extraordinaires, mes chers enfants, que je ne résiste pas au désir de vous les raconter. Cela se passait au temps des fées et des enchanteurs, au temps aussi où les bêtes parlaient. C'est de cette époque que date sans doute l'expression « dire des bêtises ». Et cependant, ces bêtes n'en disaient pas plus que les hommes de jadis, et d'aujourd'hui n'en ont dit, et n'en disent. Écoutez donc, mes chers enfants, je commence. Dans l'une des plus belles villes de ce temps-là, et dans la plus belle maison de la ville, demeurait une bonne fée. Elle s'appelait Firmenta. Elle faisait autant de bien qu'une fée en peut faire, et on l'aimait beaucoup. À cette époque, paraît-il, tous les êtres vivants étaient soumis aux lois de la métempsycose. Ne vous effrayez pas de ce mot. Cela signifie qu'il y avait une échelle de la création dont chaque être devait franchir successivement les échelons pour atteindre le dernier, et prendre rang dans l'humanité. Ainsi, on naissait mollusque, on devenait poisson, puis oiseau, puis quadrupède, puis homme ou femme. Comme vous le voyez, il fallait monter de l'état le plus rudimentaire à l'état le plus parfait. Toutefois, il pouvait arriver que l'on redescendît l'échelle grâce à la maligne influence de quelque enchanteur. Et alors, quelle triste existence! Par exemple, après avoir été homme, redevenir huître. Heureusement, cela ne se voit plus de nos jours, physiquement du moins. Sachez aussi que ces diverses métamorphoses s'opéraient par l'intermédiaire des génies. Les bons génies faisaient monter, les mauvais faisaient descendre, et si ces derniers abusaient de leur puissance, le Créateur pouvait les en priver pour un certain temps. Il va sans dire que la fée Firmenta était un bon génie, et jamais personne n'avait eu à se plaindre d'elle. Or, un matin, elle se trouvait dans la salle à manger de son palais, une salle ornée de tapisseries superbes et de magnifiques fleurs. Les rayons du soleil se glissaient à travers la fenêtre, piquant, ça et là, des deux touches lumineuses, les porcelaines et l'argenterie placées sur la table. La suivante venait d'annoncer à sa maîtresse que le déjeuner était servi. Un joli déjeuner, comme les fées ont bien le droit d'en faire sans être accusées de gourmandise. Mais à peine la fée s'était-elle assise que l'on frappa à la porte de son palais. Aussitôt la servante d'aller ouvrir. Un instant après, elle prévenait la fée Firmenta qu'un beau jeune homme désirait lui parler. « Fais entrer ce beau jeune homme, » répondit Firmenta. beau en effet, d'une taille au-dessus de la moyenne, l'air bon, l'air brave aussi, et 22 ans d'âge. Mais très simplement, il se présentait avec grâce. Tout d'abord, la fée eut favorable opinion de lui. Elle pensa qu'il venait, comme tant d'autres qu'elle avait obligés, pour quelque service, et elle se sentait disposée à le lui rendre. « Que me voulez-vous, beau jeune homme ? » dit-elle de sa voix la plus engageante. « Bonne fée, répondit-il, je suis bien malheureux, et je n'ai d'espoir qu'en vous. » Et comme il hésitait, « Expliquez-vous, reprit Firmenta, quel est votre nom ?»«
Je me nomme Ratin, répondit-il, je ne suis pas riche, et pourtant ce n'est point la fortune que je viens vous demander, non. » C'est le bonheur.
Pensez-vous donc que l'un puisse aller sans l'autre ? Répliqua la fée en souriant.
Je le pense.
Et vous avez raison. Continuez, beau jeune homme.
Il y a quelque temps, reprit-il, avant d'être homme, j'étais rat, et comme tel, très bien accueilli dans une excellente famille à laquelle je comptais m'attacher par les plus doux liens. Je plaisais au père, qui est un rat plein de sens. Peut-être la mère me voyait-elle d'un moins bon œil parce que je ne suis pas riche. Mais leur fille Ratine me regardait si tendrement. Enfin, j'allais probablement être agréée lorsqu'un grand malheur vint couper court à toutes mes espérances.
« Qu'est-il donc arrivé ? » demanda la fée avec le plus vif intérêt.
Et d'abord, je suis devenu homme, tandis que Ratine restait rate.
Eh bien, répondit Firmenta, attendez que sa dernière transformation en ait fait une jeune fille.
Sans doute, bonne fée, malheureusement, Ratine avait été remarquée par un puissant seigneur. Habitué à satisfaire ses fantaisies, il ne souffre pas la moindre résistance. Tout doit plier devant ses volontés.
Et quel était ce seigneur ?
Demanda la fée.
C'était le prince qui s'adore. Il proposa à ma chère Ratine de l'emmener dans son palais où elle serait la plus heureuse des rates. Elle s'y refusa, bien que sa mère, Ratonne, fût très flattée de la demande. Le prince tenta alors de l'acheter à haut prix. Mais le père Raton, sachant combien sa fille m'aimait et que je mourrais de douleur si on nous séparait, ne voulut point y consentir. Je renonce à vous peindre la fureur du prince qui s'adore. Voyant Ratine si belle en rate, il se disait qu'elle serait encore plus belle en jeune fille. Oui, bonne fée, plus belle encore, et il l'épouserait. Ce qui était bien raisonné pour lui, mais bien malheureux pour nous.
« Oui, répondit la fée, mais puisque le prince a été conduit, qu'avez-vous à craindre ?»«
Tout, reprit Ratin, car, pour arriver à ses fins, il s'est adressé à Garde-à-Four.
« Cet enchanteur, s'écria Firmenta, ce mauvais génie qui ne se plaît qu'à faire le mal et avec lequel je suis toujours en lutte. »
« Lui-même, bonne fée, ce garde-à-four dont la redoutable puissance ne cherche qu'à ramener au bas de l'échelle les êtres qui s'élèvent peu à peu vers les plus hauts degrés. »
« Comme vous dites. »
Heureusement, garde-à-four, ayant abusé de son pouvoir, vient d'en être privé pour quelque temps.
Cela est vrai, répondit Ratin. Mais au moment où le prince a eu recours à lui, il le possédait encore tout entier. Aussi, alléché par les promesses de ce seigneur, autant qu'effrayé de ses menaces, promit-il de le venger des dédains de la famille Raton.
Et il l'a fait.
Il l'a fait, bonne fée.
Et comment ?
Il a métamorphosé ses braves rats. Il les a changés en huîtres. Et maintenant, il végète sur le banc de Samobrive, où ces mollusques, d'excellente qualité, je dois le dire, valent 3 francs la douzaine, ce qui est bien naturel, puisque la famille Raton se trouve parmi eux. Vous voyez, bonne fée, toute l'étendue de mon malheur.
Firmenta écoutait avec pitié et bienveillance ce récit du jeune Ratin. Elle compatissait volontiers d'ailleurs aux douleurs humaines, et surtout aux amours contrariés.
« Que puis-je faire pour vous ? » demanda-t-elle.
« Bonne fée, répondit Ratin, puisque ma ratine est attachée au banc de Samobrive, faites-moi 8 à mon tour, afin que j'aie la consolation d'y vivre près d'elle. » Ce fut dit d'un ton si triste que la fée Firmenta se sentit tout émue, et, prenant la main du beau jeune homme,
« Ratin, lui dit-elle, je consentirai à vous satisfaire que je ne pourrais y réussir. Vous le savez, il m'est interdit de faire redescendre les êtres vivants. Toutefois, si je ne puis vous réduire à l'état de mollusque, ce qui est un état bien humble, je puis faire remonter Ratine.
Oh, faites, bonne fée, faites!
Mais il faudra qu'elle repasse par les degrés intermédiaires avant de redevenir la charmante rate destinée à être jeune fille un jour. Donc, soyez patient, soumettez-vous aux lois de la nature. Ayez confiance aussi.
En vous, bonne fée?
Oui, en moi, je ferai tout pour vous venir en aide. N'oublions pas, cependant, que nous aurons à soutenir de violentes luttes. Vous avez, dans le prince qui s'adore, bien qu'il soit le plus sot des princes, un ennemi puissant. Et si Garde-à-Four recouvrait son pouvoir avant que vous ne fussiez l'époux de la belle Ratine, il me serait difficile de le vaincre, car il serait redevenu mon égal.
La fée Firmenta et Ratin en étaient là de leur conversation lorsqu'une petite voix se fit entendre.
D'où sortait cette voix? Cela semblait difficile à deviner. Et cette voix disait
« Ratin, mon pauvre Ratin, je t'aime. »
« C'est la voix de Ratine !» s'écria le beau jeune homme. « Ah, madame la fée, ayez pitié d'elle !»
En vérité, Ratin était comme fou. Il courait à travers la salle, il regardait sous les meubles, il ouvrait les dressoirs, dans la pensée que Ratine pouvait y être cachée, et il ne la trouvait pas.
La fée l'arrêta d'un geste.
« Et alors, mes chers enfants, il se produisit quelque chose de singulier. Il y avait sur la table, rangée dans un plat d'argent, une demi-douzaine d'huîtres qui venaient précisément du banc de Samobrive. Au milieu se voyait la plus jolie, avec sa coquille bien luisante, bien ourlée. Et la voilà, qui grossit, s'élargit, se développe, puis ouvre ses deux valves. Des plis de sa collerette se dégage une adorable figure, avec des cheveux blonds comme les blés, deux yeux les plus doux du monde, un petit nez bien droit, une bouche charmante qui répète
« Ratin, mon cher Ratin !»«
C'est elle !» s'écrie le beau jeune homme. C'était Ratine, en effet, il l'avait bien reconnue, car il faut vous dire, mes chers enfants, qu'en cet heureux temps de magie, les êtres avaient déjà un visage humain, même avant d'appartenir à l'humanité. Et comme Ratine était jolie sous la nacre de sa coquille, on eût dit un bijou dans son écrin. Et elle s'exprimait ainsi.
« Ratin, mon cher Ratin, j'ai entendu tout ce que tu viens de dire à madame la fée. Et madame la fée a daigné promettre de réparer le mal que nous a fait ce méchant garde-à-four. Oh, ne m'abandonnez pas, car s'il m'a changé en huître, c'est pour que je ne puisse plus m'enfuir.
Alors, le prince Kissador viendra me détacher du banc auquel est attachée ma famille. Il m'emportera, il me mettra dans son vivier, il attendra que je sois devenue jeune fille, et je serai à jamais perdue pour mon pauvre et cher Ratin. »
Elle parlait d'une voix si plaintive que le jeune homme profondément ému pouvait à peine répondre.
« Oh, ma Ratine, » murmurait-il.
Et dans un élan de tendresse, il étendait la main vers le pauvre petit mollusque lorsque la fée l'arrêta. Puis, après avoir enlevé délicatement une perle magnifique qui s'était formée au fond de la valve,
« Prends cette perle, » lui dit-elle.
« Cette perle, bonne fée ?»«
Oui, elle vaut toute une fortune. Cela pourra te servir plus tard. Maintenant, nous allons emporter Ratine sur le banc de Saint-Maubrive. Et là, je la ferai remonter d'un échelon. »
Pas seule, bonne fée, répondit Ratine d'une voix suppliante. Songez à mon bon père, Raton, à ma bonne mère, Ratonne, à mon cousin, Raté. Songez à nos fidèles serviteurs, Rata et Ratane.
Mais pendant qu'elle parlait ainsi, les deux valves de sa coquille se refermaient peu à peu et reprenaient leurs dimensions ordinaires.
« Ratine ! » s'écria le jeune homme.
« Emporte-la, » dit la fée.
Et après l'avoir prise, Ratin pressa cette coquille sur ses lèvres. Ne contenait-elle pas tout ce qu'il avait de plus cher au monde ? La mer est basse. Le ressac bat doucement le pied du banc des Saint-Maubrives. Il y a des flaques d'eau entre les rochers. Le granit brille comme de l'ébène cirée. On marche sur les goémons visqueux dont les cosses éclatent en faisant jaillir de petits jets liquides. Il faut prendre garde de glisser, car la chute serait douloureuse. Quelle quantité de mollusques sur ce banc! Des vigneaux semblables à de gros limaçons, des moules, des clovis, des macles, et surtout des huîtres par milliers. Une demi-douzaine des plus belles se cachent sous les plantes marines. Je me trompe? Il n'y en a que cinq. La place de la sixième est inoccupée. Voilà maintenant que ces huîtres s'ouvrent aux rayons du soleil, afin de respirer la fraîche brise du large. En même temps, s'échappe une sorte de chant, plaintif comme une litanie de semaine sainte. Les valves de ces mollusques se sont lentement écartées. Entre leurs franges transparentes se dessinent quelques figures faciles à reconnaître. L'une est Raton, le père, un philosophe, un sage, qui sait accepter la vie sous toutes ses formes. Sans doute, pense-t-il, après avoir été rare de devenir mollusque, cela ne laisse pas d'être pénible. Mais il faut se faire une raison et prendre les choses comme elles viennent. Dans la deuxième huître grimace une figure contrariée, dont les yeux jettent des éclairs. En vain cherche-t-elle à s'élancer hors de sa coquille. C'est Dame Raton, et elle dit « Être enfermée dans cette prison d'écailles, moi qui tenais le premier rang dans notre ville de Ratopolis, moi qui arrivais à la phase humaine, aurait été grande dame, princesse peut-être. Ah, le misérable garde-à-four !» Dans la troisième huître, se montre la face bébête du cousin Raté, un franigo, quelque peu poltron, qui dresserait l'oreille au moindre bruit comme un lièvre. Il faut vous dire que, tout naturellement, en sa qualité de cousin, il faisait la cour à sa cousine. Or, Ratine, on le sait, en aimait un autre. Et cet autre, Raté, le jalousait cordialement.
« Ah ah ! Faisait-il quelle destinée ! Au moins, quand j'étais rat, je pouvais courir, me sauver, éviter les chats et les ratières. Mais ici,
il suffit que l'on m'accueille avec une douzaine de mes semblables, et le couteau grossier d'une écaillère m'ouvrira brutalement, et j'irai figurer sur la table d'un riche, et je serai avalé, vivant peut-être. »
Dans la quatrième huître, c'est le cuisinier Rata, un chef très fier de ses talents, très vaniteux de son savoir.
« Le maudit garde-four » s'écriait-il. « Si jamais je le tiens d'une main, je lui tords le cou. » Moi, Rata, qui en faisais de si bon que le nom m'en est resté, être collé entre deux écailles. Et ma femme, Ratane ?«
Je suis là, » dit une voix qui sortait de la cinquième huître. « Ne te fais pas du chagrin, mon pauvre Rata. Si je ne puis me rapprocher de toi, je n'en suis pas moins à ton côté. Et quand tu remonteras l'échelle, nous la remonterons ensemble. »
« Bonne Ratane, une grosse boulotte, toute simple, toute modeste, aimant bien son mari et, comme lui, très dévouée à ses maîtres. » Puis, alors, la triste litanie reprit sur un mode lugubre. Quelques centaines d'huîtres infortunées, attendant leur délivrance, elles aussi, se joignirent à ce concert de lamentations. Cela serrait le cœur. Et quel surcroît de douleur pour Raton, le père, et pour Dame Ratonne, s'ils avaient su que leur fille n'était plus avec eux.
Soudain, tout se tut. Les écailles se refermèrent. Garde-à-four venait d'arriver sur la grève, vêtu de sa longue robe d'enchanteur, coiffé du bonnet traditionnel, la physionomie farouche. Près de lui marchait le prince qui s'adore vêtu de riches habits. On imaginerait difficilement à quel point ce seigneur était infatué de sa personne, et comme il se déhanchait d'une manière ridicule pour se donner des grâces.
« Où sommes-nous » demanda-t-il. « Au banc de Samobrive, mon prince, » répondit obséquieusement garde-à-four.
« Et cette famille Raton ?»«
Toujours à la place où je l'ai incrustée pour vous être agréable. » « Ah, garde-à-four, » reprit le prince en frisant sa moustache, « cette petite Ratine, j'en suis ensorcelée. Il faut qu'elle soit à moi. Je te paie pour me servir, et si tu ne réussis pas, prends garde. »
« Prince, » répondit garde-à-four, « si j'ai pu changer toute cette famille de rats en mollusques avant que mon pouvoir ne m'eût été retiré, « je n'aurais pu en faire des êtres humains, vous le savez. »«
Oui, garde-à-four, et c'est bien cela qui m'enrage. »
Tous deux prirent pied sur le banc, au moment où deux personnes paraissaient sur l'autre côté de la grève. C'était la fée Firmenta et le jeune Ratin. Celui-ci tenait sur son cœur la double coquille qui renfermait sa bien-aimée. Soudain, ils aperçurent le prince et l'enchanteur.
« Garde-à-four, » dit la fée, « que viens-tu faire ici ? Préparer encore quelque machination criminelle ?»«
Fée Firmenta, » dit le prince qui s'adore, « tu sais que je suis fou de cette gentille Ratine, assez peu avisée pour refuser un seigneur de ma tournure, et qui attend si impatiemment l'heure où tu la rendras jeune fille. »
« Quand je la rendrai jeune fille, » répondit Firmenta, « ce sera pour appartenir à celui qu'elle préfère. »
« C'est impertinent, » riposta le prince, « ce Ratin dont garde-à-four n'aura pas de peine à faire un âne quand je lui aurai allongé les oreilles. »
À cette insulte, le jeune homme bondit. Il allait s'élancer sur le prince et châtier son insolence lorsque la fée lui saisit la main.
« Calme ta colère, » dit-elle, « il n'est pas temps de te venger,
et les insultes du prince tourneront un jour contre lui. Fais ce que tu as à faire et partons. »
Ratin obéit et, après l'avoir pressée une dernière fois sur ses lèvres, il alla déposer l'huître au milieu de sa famille. Presque aussitôt, la marée commença à recouvrir le banc des Samobrives. L'eau envahit les dernières pointes et tout disparut jusqu'à l'horizon de la haute mer, dont le contour se confondait avec celui du ciel. Cependant, à droite, quelques roches sont restées à découvert. La marée ne peut atteindre leur sommet, même lorsque la tempête pousse les lames à la côte. C'est là que le prince et l'enchanteur se sont réfugiés. Lorsque le banc sera à sec, ils iront chercher la précieuse huître qui renferme Ratine et l'emporteront. Au fond, le prince est furieux. Si puissants que fussent les princes et même les rois, ils ne pouvaient rien en ce temps-là contre les fées, et il en serait encore de même si nous revenions jamais à cette heureuse époque. Et en effet, voici que Firmenta dit au beau jeune homme. Maintenant que la mer est haute, Raton et les siens vont remonter d'un échelon vers l'humanité. Je vais les faire poissons, et sous cette forme, ils n'auront plus rien à craindre de leurs ennemis.
Même si on les pêche, fit observer Ratin.
Sois tranquille, je veillerai sur eux.
Par malheur, Gardafour avait entendu la fée et imaginé un plan. Suivi du prince, il se dirigea vers la terre ferme. Alors, la fée étendit sa baguette vers le banc de Samobrive caché sous les eaux.
Les huîtres de la famille Raton s'entr'ouvrirent. Il en sortit des poissons frétillants, tout joyeux de cette nouvelle transformation.
Raton, le père, un brave et digne turbeau avec des tubercules sur son flanc brunâtre, et qui, s'il n'eût eu face humaine, vous aurait regardé de ses deux gros yeux placés sur le côté gauche.
Madame Ratton, une vive, avec la forte épine de son opercule et les piquants acérés de sa première dorsale, très belle d'ailleurs, sous ses couleurs changeantes.
Mademoiselle Ratine, une jolie et élégante dorade duchine, presque diaphane, bien attrayante dans son vêtement mélangé de noir, de rouge et d'azur.
Rata, un farouche brochet de mer, corps allongé, bouche fendue jusqu'aux yeux, dents tranchantes, l'air furieux comme un requin en miniature, et d'une surprenante voracité.
Ratane, une grosse truite saumonée, avec ses taches ocellées couleur de vermillon, les deux croissants dessinés sur le fond argenté de ses écailles, et qui eût fait bonne figure sur la table d'un gourmet.
Enfin, le cousin raté, un merlan, au dos d'un gris verdâtre. Mais par une bizarrerie de la nature, ne voilà-t-il pas qu'il n'est qu'à moitié poisson?
Oui, l'extrémité de son corps, au lieu d'être terminée par une queue, est encore engagée entre deux écailles d'huître.
N'est-ce pas là le comble du ridicule? Pauvre cousin!
Et alors, merlan, truite, brochet, dorade, vive, turbo, rangés sous les eaux calcaires au pied de la roche où Firmenta agitait sa baguette, semblaient dire
« Merci, bonne fée, merci !»
En ce moment, une masse venant du large se dessine plus nettement. C'est une chaloupe avec sa grande misaine rougeâtre et son foc au vent. Elle arrive dans la baie, poussée par une fraîche brise.
Le prince et l'enchanteur sont à bord, et c'est à eux que l'équipage doit vendre toute sa pêche. Le chalut a été envoyé à la mer. Dans cette vaste poche que l'on promène sur le fond sablonneux, se prennent par centaines toutes sortes de poissons, de mollusques et de crustacés, crabes, crevettes, homards, limandes, raies, soles, barbus, anges, vives, dorades, turbots, bars, rougets, grondins, mulets, surmulets, et bien d'autres. Aussi, quel danger menace la famille Raton à peine délivrée de sa prison d'écailles. Si par malheur le chalut la ramasse, elle n'en pourra plus sortir. Alors, le turbot, la vive, le brochet, la truite, le merlan, saisis par la grosse main des matelots, seront jetés dans les paniers des mareyeurs, expédiés vers quelque grande capitale, étalés, palpitants encore sur le marbre des revendeuses. Tandis que la dorade, emportée par le prince, sera à jamais perdue pour son bien-aimé Ratin. Mais voici le temps qui change. La mer grossit. Le vent siffle. L'orage éclate. C'est la rafale. C'est la tempête. Le bateau est horriblement secoué par la houle. Il n'a pas le temps de relever son chalut qui se rompt, et malgré les efforts du timonier, il est drossé vers la côte et se fracasse sur les récifs. À peine si le prince qui s'adore et garde à four peuvent échapper au naufrage grâce au dévouement des pêcheurs. C'est la bonne fée, mes chers enfants, qui a déchaîné cet orage pour le salut de la famille Raton. Elle est toujours là, accompagnée du beau jeune homme et sa merveilleuse baguette à la main. Alors, Raton et les siens frétillent sous les eaux qui se calment. Le turbot se tourne et se retourne, la vive nage coquettement. Le brochet ouvre et ferme ses vigoureuses mâchoires dans lesquelles s'engouffrent de petits poissons. La truite fait des grâces. Et le merlan que gêne ses écailles se meut gauchement. Quant à la jolie dorade, elle semble attendre que Ratin se précipite sous les eaux pour la rejoindre. Oui, il le voudrait, mais la fée le retient. Non, dit-elle, pas avant que Ratine n'ait repris la forme sous laquelle elle a d'abord su te plaire. Une fort jolie ville que la ville de Ratopolis. Elle est située dans un royaume dont j'ai oublié le nom, qui n'est ni en Europe, ni en Asie, ni en Afrique, ni en Océanie, ni en Amérique, bien qu'il se trouve quelque part. En tout cas, le paysage autour de Ratopolis ressemble beaucoup à un paysage hollandais. C'est frais, c'est vert, c'est propre, avec des cours d'eau limpides, des berceaux ombragés de beaux arbres, des pays grasses où paissent les plus heureux troupeaux du monde. Comme toutes les villes, Ratopolis a des rues, des places, des boulevards. Mais ces boulevards, ces places, ces rues sont bordées de fromages magnifiques en guise de maisons. Des gruyères, des croûtes rouges, des mareuils, des chestères de 20 espèces. Ils sont creusés à l'intérieur en étages, appartements, chambres. C'est là que vit, en République, une nombreuse population de rats, sages, modestes et prévoyantes. Il pouvait être 7 heures du soir un dimanche. En famille, rats et rates se promenaient pour respirer la fraîcheur. Après avoir bien travaillé toute la semaine à refaire les provisions du ménage, il se reposait le 7e jour. Or, le prince qui s'adore était alors à Ratopolis, accompagné de l'inséparable garde à four. ayant appris que les membres de la famille Raton, après avoir été poissons pendant quelque temps, étaient redevenus rats, ils s'occupaient à leur préparer de secrètes embûches. « Quand je songe, répétait le prince, que c'est encore à cette fée maudite qu'ils doivent leur nouvelle transformation. » « Et tant mieux, répondait Gardafour, ils seront maintenant plus faciles à prendre. Des poissons, cela s'échappe trop aisément. À présent, les voilà rats ou rates, et nous saurons bien nous en emparer. » « Et une fois en votre pouvoir, ajouta l'enchanteur, la belle ratine finira par être folle de votre seigneurie. » À ce discours, le fat se rengorgeait, se pavanait, lançait des œillades aux jolies rates en promenade. « Gardafour, dit-il, tout est prêt ?»« Tout, mon prince, et Ratine n'échappera pas au piège que je lui ai tendu. » Et Gardafour montrait un élégant berceau de feuillage disposé au coin de la place. « Ce berceau cache un piège, dit-il, et je vous promets que la belle sera aujourd'hui même dans le palais de votre seigneurie, où elle ne pourra résister aux grâces de votre esprit et aux séductions de votre personne. » Et l'imbécile de gober ces grosses flatteries de l'enchanteur. « La voilà, dit Gardafour, venez, mon prince. » Il ne faut pas qu'elle nous aperçoive. Tous deux gagnèrent la rue voisine. C'était Ratine, en effet, mais Ratin l'accompagnait pour rentrer au logis. Qu'elle était charmante, avec sa jolie figure de blonde et sa gracieuse tournure de rat. Et le jeune homme lui disait, « Ah, chère Ratine, que n'es-tu déjà une demoiselle ? Si, pour t'épouser tout de suite, j'avais pu redevenir rat, je n'aurais pas hésité, mais cela est impossible. Eh bien, mon cher Ratin, il faut attendre. Attendre, toujours attendre. Qu'importe, puisque tu sais que je t'aime et ne serai jamais qu'à toi. D'ailleurs, la bonne fée nous protège, et nous n'avons plus rien à craindre du méchant Gardafour, ni du prince qui s'adore. « C'est impertinent, s'écria Ratin, ce sot que je corrigerai. Non, mon Ratin, non, ne lui cherche pas querelle, il a des gardes qui le défendraient, et patience, puisqu'il le faut, et confiance, puisque je t'aime. » Tandis que Ratine disait si gentiment ces choses, le jeune homme la pressait sur son cœur, lui baisait ses petites pattes. Et comme elle se sentait un peu fatiguée de sa promenade, « Ratin, dit-elle, voilà le berceau sous lequel j'ai l'habitude de me reposer. Va à la maison prévenir mon père et ma mère, qu'ils me retrouveront ici pour aller à la fête. » Et Ratine se glissa sous le berceau. Soudain, il se fit entendre un bruit sec, comme le craquement d'un ressort qui se détend. Le feuillage cachait une perfide ratière, et Ratine, qui ne pouvait s'en défier, venait de toucher le ressort. Brusquement, une grille s'était abattue devant le berceau, et maintenant, elle était prise. Ratin jeta un cri de colère, auquel répondit le cri de désespoir de Ratine, auquel répondit le cri de triomphe de Gardafour, qui accourait avec le prince qui s'adore. En vain le jeune homme s'accrochait-il à la grille pour en briser les barreaux. En vain voulut-il se jeter sur le prince. Le mieux était d'aller chercher du secours pour délivrer la malheureuse Ratine. Et c'est ce que fit Ratin en s'échappant par la grande rue de Ratopolis. Pendant ce temps, Ratine était extraite de la ratière. Et le prince qui s'adore lui disait le plus galamment du monde. « Je te tiens, petite, et maintenant, tu ne m'échapperas plus.